Merci d'être là pour partager cette découverte de l'univers de Cocteau, que certains d'ailleurs connaissent déjà très largement. Et je dois dire que c'est un petit peu une gageure de vouloir enfermer Cocteau dans 45 minutes de projection. L'œuvre de Cocteau est une œuvre qui est déroutante, mobile, et l'artiste ne fait rien pour faciliter la compréhension ou l'accès à son œuvre. Dans cet autoportrait que vous avez là et qui a été pris comme couverture de l'album de la Pléiade de Cocteau que Gallimard a sorti en 2006, vous voyez, c'est un autoportrait masqué. Et en plus, je suis allé regarder de près dans les sources, l'image est trafiquée là, parce que au-dessus, sur le front, il y a un texte qui est très bizarre d'ailleurs, parce que ce texte dit « écrivez lisiblement ». Mais comme c'était la Pléiade, ils n'ont pas voulu utiliser ce type de texte, et donc ils ont réduit leur image à cette partie du portrait. D'autre part, les deux citations classiques que j'ai sorties de Cocteau ne facilitent pas non plus l'approche de l'œuvre et de l'artiste. Et plus largement, ceux qui s'intéressent à Cocteau ont toujours une double postulation vis-à-vis de lui. Il y a à la fois une fascination, parce qu'on est en face de quelque chose dont on sent que c'est très fort, et qui nous échappe, et cette fascination est donc liée à une sorte de frustration, parce que justement ça nous échappe. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Cocteau. Je ne suis pas un chercheur pur sucre, ça ne fait que 15 ans que j'ai une connivence avec l'œuvre de Cocteau, mais ce qui me plaît, c'est d'abord que Cocteau est complètement transversal, et on va le vérifier puisqu'il est à la fois dans la poésie, dans le théâtre, dans les essais, dans les romans, dans les films, dans la peinture, dans les céramiques, dans la décoration architecturale. Et donc ce côté transversal me plaît beaucoup, et cette façon d'essayer de se dissimuler, de préserver, comme il dit lui-même, son invisibilité, c'est quelque chose qui, par contre-coup, exerce une sorte d'attraction sur vous-même. Alors, on va rappeler quelques repères biographiques rapidement. Évidemment, dès qu'on fait des repères biographiques, c'est un choix personnel. Il y a tellement de choses dans l'œuvre de Cocteau que moi, j'ai ponctuellement sélectionner un certain nombre de moments clés, mais d'autres en sélectionneraient d'autres. Donc j'ai sélectionné sa naissance, le suicide de son père, sa première rencontre avec la virilité, c'est-à-dire ce jeune d'Argelos qui lui envoie des boules de neige et qui rencontre au lycée Condorcet, et on s'aperçoit déjà de la fascination de Cocteau pour les jeunes gens virils, originaux et qui ont un véritable charisme. Son premier recueil, alors c'est assez drôle parce qu'il a commencé à compte d'auteur en 1909, il avait 20 ans, il a d'ailleurs récusé tout ce qu'il avait fait dans sa jeunesse à compte d'auteur. En 1914, il se lance véritablement dans la littérature en fondant avec Paul Iribe la revue Le Mot et en commençant déjà des dessins qui signent Jim. Et ce qui est très curieux, je suis allé voir ses dessins, bien entendu, puis comme je travaille sur la guerre de 14-18, ce n'est pas trop compliqué. Dans ses dessins, il est tombé dans un piège qui est le piège où sont tombés beaucoup de dessinateurs de l'époque, c'est-à-dire l'idée que les Allemands coupaient les mains des petits-enfants. Et dans les dessins de Cocteau, c'est pas dans les biographies, on a des dessins où Cocteau représente des enfants avec les mains coupées. Bon, Il était victime, en fait, des préjugés de son époque. Il a mené la guerre de 14 essentiellement comme ambulancier. Et sa première véritable œuvre, c'est Parade. Parade, qui est un ballet créé en 1917 avec une musique d'Éric Satie, avec une mise en scène de Picasso. Il avait déjà un cénacle autour de lui et avec donc une chorégraphie d'un russe qui s'appelle Le Guy de Massine et qui était un très beau jeune homme de 21 ans auquel il a confié la chorégraphie de Parade. Il va rencontrer Radiguet et ça va être sa première grande passion. Il s'en remettra très très mal, et c'est aussi la première grande source d'inspiration, puisque c'est là qu'il conçoit Le Grand Écart, le roman Thomas l'Imposteur, le recueil Plein Champ, et ces recueils vont sortir en 1923. Radiguet est mort le 12 décembre 1923, donc on va fêter le centenaire de Radiguet à Saint-Maur cette année. Et Cocteau est bouleversé complètement. Pendant un ou deux ans, il ne fait rien. Et puis, il va voir, par besoin, par désir de ne pas être seul, il va nouer une relation avec Jean Desbordes. Alors, Jean Desbordes, c'est un militaire, jeune, plein de fraîcheur, assez beau, paraît-il, mais pas tellement, quand on regarde les photos. Jean Desbordes est complètement, lui, amoureux fou, à la fois de la personne et de l'œuvre de Cocteau. Donc Cocteau se laisse prendre, en quelque sorte, à cette fascination, mais ça va l'aider, parce qu'en même temps, Cocteau a commencé à s'adonner à l'opium, et il va, pour continuer à mener une vie correcte, entreprendre un certain nombre de cures de désintoxication, qui vont d'ailleurs pas marcher véritablement, mais c'est aussi l'époque où il va écrire le roman « Les enfants terribles » et puis ce fameux essai « Opium ». 1932, Cocteau rencontre Nathalie Palais. Alors, avec Nathalie Palais, il y a une idylle. Elle aurait attendu un enfant de lui, elle aurait fait une fausse couche. On ne sait pas trop si nous sommes dans la fiction ou nous sommes dans la vérité de Cocteau. Cocteau a un art extraordinaire de mélanger perpétuellement le réel et la fiction, et donc il semblerait qu'avec cette princesse russe, il y a eu vraiment une idylle et elle lui restera très attachée. Cocteau finit par abandonner Jean Desbordes, qui le lasse un peu, qui ne crée pas beaucoup, qui crée des disputes. Il rencontre pendant un moment, il vit avec Marcel Thiel et puis il va rencontrer en 1937 Jean Marais. Et là, c'est la grande passion, alors passion partagée, il y a beaucoup de discussions là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, Cocteau sera toujours reconnaissant à Jean Marais de ce qu'il lui a apporté, je le démontrerai tout à l'heure, et à cette époque, il va donc écrire, par exemple, la pièce « Les parents terribles ». Pour continuer ses repères biographiques, 1940, Le Bel Indifférent, interprété par Édith Piaf. Et vous savez que Cocteau est mort le même jour qu'Édith Piaf. Et on va revenir sur ce Bel Indifférent tout à l'heure. Et c'est là qu'il s'achète ce petit appartement de la rue de Montpensier qui donne sur le Palais Royal et qui jouxte d'ailleurs ou presque l'appartement de Colette. En 1941-42, un de ses chefs-d'œuvre, La Machine Infernale, et puis éclate l'affaire Brecker. Brecker, Arnaud Brecker, c'est un sculpteur qui fait l'admiration d'Adolf Hitler. Et donc, pour toute l'intelligentsia de l'époque, on ne peut pas frayer avec Arnaud Brecker. Sauf que Cocteau, qui était ami de Brecker, ne veut pas abandonner Brecker, qu'il écrit un salut à Brecker qui lui sera reproché à peu près toute sa vie, et ses amis, Éluard, Aragon, etc., se détournent de lui. Il se retrouve véritablement dans une solitude, pas simplement intellectuelle, mais relationnelle. 1945, c'est le fameux film « La Belle et la Bête » qui obtient le prix Louis de Luc en 1946. En 1947, il achète avec Jean Marais la maison de Milly-la-Forêt et c'est là qu'il va rencontrer Édouard d'Hermite, celui qu'on appelle Doudou, qui est au départ un ouvrier dans les mines de fer, qui va essayer de faire quelques peintures, de faire un peu de théâtre, et puis qui en fait va devenir une sorte d'ange gardien de Jean Cocteau, qui ne quittera plus. C'est là que son film Orphée obtient le prix de la critique. En 50, il va rencontrer Francine Weisweiler et il va s'installer un temps assez important à Santos Hospice, c'est sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, et il va complètement décorer de fresques toute la propriété de Santos Hospice. C'est là aussi qu'il commence son journal, enfin son grand journal, ce qu'il va appeler le Passé des Familles, qu'il va suivre jusqu'à sa mort. On rentre dans la période des honneurs, il est élu à l'Académie française en 1955, il continue néanmoins à travailler, il va décorer la chapelle de Milly en 1959, et c'est là d'ailleurs où il sera enterré, met en scène le Testament d'Orphée, qui est son dernier film, et qu'il considère comme un testament, mais je vais essayer de vous démontrer tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai. Il est élu prince des poètes en 1960, il décore les vitraux de l'église Saint-Maximin de Metz et il va produire deux œuvres qui sont, à mon avis, extrêmement importantes parce que ce sont les dernières et peut-être que quand on avance en âge, on s'intéresse surtout aux dernières œuvres de quelqu'un pour savoir ce qu'il avait à dire fondamentalement avant de disparaître. Donc c'est le poème « Le Requiem » et l'essai « Le cordon ombilical » et il va mourir le 11 octobre 1963. Certains ont prétendu que c'était parce que Édith Piaf était morte quelques heures avant. Ça n'est pas exact. Ils se connaissaient bien, ils s'entendaient bien, mais il n'y avait pas assez de passion chez Cocteau pour que la mort d'Édith Piaf le touche directement. Alors on va rentrer dans l'univers de Jean Cocteau. Pour chacun des domaines de Cocteau, je vous ai mis d'un côté un certain nombre de repères et puis aussi des citations, soit des citations de Cocteau, donc c'est celles qui ne sont pas signées, soit des citations de gens qui ont parlé des œuvres de Cocteau. Et par exemple, Nathalie Palais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit que tous les soirs, avant de s'endormir, elle relit le poème plein chant. Et Jean Genet, qui l'a rencontré, avec lequel il a établi une amitié très étrange, parce que quand on y réfléchit, il n'y a pas grand-chose qui rapproche Jean Genet de Cocteau, sauf peut-être leur amour de la liberté, leur amour de la provocation et un véritable sentiment très fort de ce qu'est la poésie. Et Jean Genet, qui avait envoyé son condamné à mort à Cocteau, qu'il avait beaucoup apprécié, renvoie en quelque sorte l'ascenseur en disant à quel point le chiffre 7 l'a marqué. Et puis Cocteau lui-même, qui se définit fondamentalement comme poète, explique qu'il est à la fois le plus inconnu et le plus célèbre. Et c'est toujours cette idée que ce qui est visible protège ce qu'il essaye de dissimuler aux yeux des autres, c'est-à-dire son invisibilité. Donc, de la poésie, on passe au théâtre. J'ai gardé la couverture donc de La Machine Infernale, parce que c'est la propre couverture imaginée par Jean Cocteau. Donc, quelques repères des grandes pièces de théâtre ou des spectacles qu'il a créés. Et deux petites citations, celle de Max Jacob qui explique à quel point finalement Cocteau déroute ses propres amis. Ta pièce a ceci d'étrange, quand on la voit c'est une pièce, quand on la lit c'est un roman, c'est toujours un poème. Et c'est une grande force de Cocteau, c'est qu'il n'est pas classable, il n'est pas segmentable. Là je le fais pour le plaisir en disant il y a la partie poésie, la partie théâtre, la partie etc. Mais vous allez voir, tout s'interpénètre chez Cocteau. J'ai gardé un texte de Cocteau parce qu'il s'applique tout à fait au bel indifférent. Le bel indifférent, donc, c'est joué par Edith Piaf, vous pouvez le voir aujourd'hui, joué par Roman Boringer au Théâtre de l'Atelier, et c'est quelque part un rêve de Cocteau, que le texte devienne un prétexte et que la pièce disparaisse au bénéfice des comédiens. On va passer au côté roman, donc quelques repères du Potomac jusqu'à la fin du Potomac. Dans ces repères, il y a un ouvrage qui pose un véritable problème, qui est l'ouvrage Le Livre Blanc. Le Livre Blanc, c'est classé en général par les chercheurs pur sucre de Cocteau comme un roman. Moi, je dirais plutôt que c'est une sorte de récit qui est poétique, qui est, si on peut dire, homo-érotique. C'est d'abord sorti par son ami Maurice Sache à 31 exemplaires. Cocteau le récuse. Finalement, il accepte de le ressortir avec 18 dessins de Cocteau, lui-même, et le récuse à nouveau, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre en charge cet ouvrage qui est quand même, quelque part, une sorte d'apologie de l'érotisme et de l'homosexualité, et qui, pour moi, est finalement beaucoup plus proche de l'essai, d'une sorte de texte inclassable que d'un roman. Et ça montre quand même que Cocteau se soucie aussi de son audience, de l'importance qu'il peut acquérir auprès de son public. C'est pour ça que j'ai gardé cette citation sur le fait que quand il porte Les Enfants Terribles à Bernard Grasset, il pense que ça ne va pas fonctionner et il constate finalement que ça fonctionne bien, notamment auprès du public qu'il visait. Jean Cocteau essayiste, alors là encore vous avez un certain nombre de repères et on peut dire qu'il a été un peu essayiste une grande partie de sa vie puisque le Secret professionnel c'est 1922, il a un peu plus d'une trentaine d'années et Le Cordon ombilical c'est son dernier essai. Les tomes de son journal ne seront publiés par Gallimard qu'à partir de 1983, mais il a tenu son journal de 51 jusqu'à 63, et j'ai sorti cette citation qui justifie un peu la façon dont Cocteau, par l'opium, essayait de se libérer de ses fantasmes. Bien entendu, il y a le Cocteau cinéaste, donc vous avez la fiche de André Paulvé pour La Belle et la Bête, et j'ai mis en exergue à la fois son entrée dans l'écriture cinématographique et sa sortie de l'écriture cinématographique, puisque dans La Lettre à sa mère, il s'agit des premiers films comme Le sang d'un poète, il dit en quelque sorte, ça y est, je sais écrire sur une pellicule, et en 1960, c'est-à-dire au moment où il va réaliser son dernier film, Le Testament d'Orphée, qui pour lui en plus apparaît comme un testament, il dit bon ben voilà, j'abandonne le métier de cinéaste. La citation que j'ai mise en exergue sous La Lettre à sa mère, c'est pour expliquer La Belle et la Bête. Il dit qu'il s'est inspiré des contes de Perrault et de Gustave Doré, qui est illustrateur des contes de Perrault, sauf que La Belle et la Bête, c'est pas du tout du Perrault, c'est Madame le Prince de Beaumont. Mais la féerie de La Belle et la Bête renvoie aux contes de fées et aux dessins de Gustave Doré. Et puis il y a le Jean Cocteau artiste, qui a commencé dès 1925. 1925, il fait les dessins du mystère de Jean Loiseleur. Après, il va faire les fresques de Saint-Sauspire, la chapelle de Villefranche, la salle des mariages de Marton, etc., etc. Plus un certain nombre d'autres choses plus courantes, comme des tapisseries, des mosaïques. La chapelle de Fréjus, donc cette chapelle, je suis allé la voir il y a quelques jours, c'est assez fascinant parce que elle a été un peu inachevée. C'est Édouard Dermite qui a essayé de la finir. On est devant une sorte de dramaturgie de fin de vie. Il est à la fin de vie, il se rend compte qu'il est à la fin de vie, il n'a plus la force de faire tout ce qu'il voudrait faire, et en même temps, il essaye de faire de très belles choses, et il explique aussi que ces côtés fabriqués de ses propres mains, ça lui permet d'échapper à la tyrannie de la plume, à la tyrannie de l'encre, et aussi à ce milieu littéraire qui à la fois le fascine et qu'il déteste. Et ça expliquera aussi ses rapports compliqués avec l'Académie française, avec ses collègues quand il l'élise comme prince des poètes. Il est très très fier, très très fier d'être distingué. Et en même temps, c'est un monde qui lui paraît limité, qui lui paraît petit, pesant et enfermé dans l'écriture. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc nous sommes en octobre 2023 et nous célébrons en 2023 les 60 ans de la disparition de Jean Cocteau dans les deux lieux qui sont les lieux importants de Cocteau, le musée du Bastion à Menton où il y a l'exposition sur le château des mystères et la maison de Milly, la maison Jean Cocteau qui organise elle aussi des tas d'activités. Et du coup, en octobre 2023, il y a toute une série d'événements qui vont marquer les 60 ans de la disparition de Cocteau. Alors, il y a d'abord ce document qui est extraordinaire, qui s'appelle « Chambre avec vue », qui est un ouvrage de 200 et quelques pages, sous coffret, vous avez à la fois le coffret, la couverture du coffret et la couverture de l'ouvrage. C'est superbement mis en page. Il y a très peu de textes. Et en fait, Dominique Marny et Nicolas Patreschi, pour les éditions des Saint-Pères, ont inventé une sorte d'objet poétique fait comme si l'œuvre de Cocteau comportait un certain nombre de chambres et que chaque chambre allait nous faire découvrir une partie de l'univers de Cocteau. C'est d'ailleurs ce que dit la conceptrice Dominique Marny, qui par ailleurs est la petite nièce de Jean Cocteau. Mais il n'y a pas que chambre avec vue, c'est aussi en octobre 2023 toute une série d'éditions, de rééditions, de reprises. Et je pense qu'un certain nombre d'éditeurs se sont dit qu'il fallait profiter de cette occasion pour relancer l'intérêt sur Cocteau. Donc il y a la correspondance avec Jean Desbordes qu'ils ont appelé « Je t'aime jusqu'à la mort » parce que c'était le texte de Desbordes qui est sorti chez Albin Michel. Trois œuvres qui sont sorties au Rocher, Grasset a réédité toutes les œuvres qui étaient sorties chez lui. La Cinémathèque de Paris fait une rétrospective Cocteau. Le Théâtre de l'Atelier propose donc Le Bel Indifférent aujourd'hui avec donc l'interprétation de Roman Borges. Alors, ça m'avait donné une idée un petit peu folle. Je savais que la célébration de l'année Cocteau serait en 2023 et j'ai imaginé donc de créer un jeu de cartes Jean Cocteau à partir des illustrations de l'artiste, à partir des textes de l'artiste. Vous avez donc là l'étui avec le verso qui est l'Orphée à la lyre de Cocteau. Je vais revenir sur ce symbole qui est un symbole majeur de l'œuvre de Cocteau. Et puis le recto qui présente trois des cartes. Donc c'est un jeu de cartes tout à fait normal. 52 cartes plus deux jokers. Les jokers étant là pour expliquer la façon dont le jeu a été conçu. Donc, ça a été construit de la façon suivante. Il y a quatre grands domaines chez Cocteau. Donc, les romans, ça sera les trèfles. Les carreaux, ça sera le spectacle, le théâtre ou le cinéma. Les cœurs, ça sera la poésie. Et les piques, ça sera les essais et la correspondance. Et à l'intérieur de ça, tous les as, ce sont les symboles majeurs de Cocteau. Tous les rois, ce sont les hommes qui ont compté intellectuellement ou physiquement dans la vie de Cocteau. Les dames, c'est toutes les femmes qui ont compté, parce qu'il y en a quand même dans la vie de Cocteau. Les valets, ce sont les jeunes amants de Cocteau. Et pour toutes les cartes numérotées, eh bien, vous avez une citation de Cocteau qui comporte un chiffre qui renvoie au chiffre de la carte lui-même, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, vous avez là le roi de carreau et l'as de pique. Roi de carreau parce que nous sommes dans le spectacle, le théâtre et le cinéma. As de pique parce que nous sommes dans ce que j'ai appelé tout à l'heure une sorte d'essai pour le livre blanc. Et puis deux textes pour illustrer. Le texte qu'il a envoyé à Jean Marais, « Si désormais je parviens à créer une œuvre nouvelle, c'est à cause de ton soleil sur ma pauvre terre aride et qui menace de mourir. » Et vous voyez que sur le dessin qu'il a fait de Cocteau, vous avez cette dédicace assez extraordinaire, « Mon Jeannot, je t'aime pour la vie ». Et le deuxième texte, c'est sur la beauté, puisque le livre blanc est centré véritablement sur la beauté des corps et la beauté des cœurs. Voici maintenant deux autres cartes. La dame de cœur, donc nous sommes dans la poésie, donc c'est Ada de Noailles. Et vous voyez pour le 8 de trèfle, nous sommes dans le roman. La fin du Potomac, c'est un roman. Dans le texte, vous avez « J'ai rêvé des clartels que 8 ans saluaient 8 ans, 8 et 8, 19, j'ai joué le 19 bon. ». C'est le style de Cocteau, le style déroutant de Cocteau. Mais donc, vous avez le chiffre 8 qui renvoie au chiffre du 8 de trèfle. Ça n'apparaît pas, mais c'est un travail complètement fou parce qu'il faut faire à peu près la totalité de l'œuvre de Cocteau, se taper les trois volumes de la Pléiade pour pouvoir trouver à chaque fois une correspondance. Mais c'est aussi pour moi une façon d'inviter à découvrir cet univers de Cocteau qui n'est pas facile quand on essaye de l'aborder de face, mais quand on essaye de l'aborder de côté, c'est un petit peu autre chose. Alors, toujours dans ce cadre-là, je me suis amusé, enfin, ce n'est pas un amusement parce que c'est très sérieux, à créer un petit polar cette année qui est sorti à le nombre d'exemplaires limité, on est sur 150 exemplaires, sur l'ultime secret de Jean Cocteau. C'est parti d'un travail que j'avais fait, je l'ai un peu dit tout à l'heure, sur les dernières œuvres de l'artiste. Quel est le message qu'il laisse finalement avant de partir? Et quand on regarde les derniers textes de Cocteau, il y a quelque chose de complètement surprenant. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des contradictions manifestes. Alors, Cocteau, les contradictions, il en vit. Mais bon, il le dit un peu explicitement, il y aurait dans la maison de Mihibre une sorte de secret. Et ce secret serait une clé pour découvrir un aspect méconnu de l'œuvre de Cocteau. Alors, dans ces cas-là, vous voyez, la petite machine romanesque commence à tourner dans la tête, et je me suis dit, ben, je ne veux pas me mettre en scène, moi. Je vais imaginer qu'un jeune thésard qui travaille sur Cocteau fait la même découverte que moi, se dit mais il y a un secret dans ces derniers textes, ça, c'est, et va aller chercher dans la maison de Cocteau. Enfin, ben, c'est s'introduire dans la maison de Cocteau pour découvrir ce secret. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu et tout ça va se terminer tragiquement comme un thriller. Alors, avant de refermer ce dossier sur Cocteau, je voudrais m'arrêter sur un sujet qui, bon, à titre personnel, me passionne complètement, mais qui pose aussi un énorme problème à tous les exégètes de l'œuvre. C'est le rapport entre le mythe d'Orphée et le personnage de Cocteau. Cocteau a toujours dit qu'Orphée était sa figure tutélaire. Et la preuve, c'est que cet Orphée à la lyre, on le revoit tout le temps, et je l'ai repris, bien entendu. Et on cherche quel est le rapport profond entre le mythe d'Orphée et le personnage de Cocteau. Et il y a en fait plusieurs réponses. D'abord parce que Orphée a été une source d'inspiration pour tous les créateurs. Les musiciens comme Saint-Saëns, les créateurs d'opéra comme Monteverdi, les créateurs d'opérette comme Offenbach, les poètes comme Rilke, les cinéastes comme Alain René, les dramaturges comme Jean Anouilh. Donc ça, c'est une première tentative d'explication. La deuxième, ce qui pourrait fasciner aussi Cocteau, c'est que Orphée est de naissance divine. Son père est Oéagre, qui est le fils du dieu Mars et de Leto, qui est une des épouses de Zeus, enfin, si on peut dire, et qui lui a donné quand même Artémis et Apollon. Et Oéagre va se marier avec Calliope, qui est la muse de la poésie épique. Donc vous avez quand même là une parentèle qui est d'essence divine. Et puis il y a l'idée que Cocteau est un magicien. Vous savez, dans la mythologie grecque, Orphée fait mouvoir les forêts, fait remonter les fleuves vers leurs sources, fait que les rochers se désagrègent, que des tremblements de terre se produisent, et que par le simple son de sa musique, le monde extérieur est complètement transformé. Et puis il y a aussi chez Orphée, cette idée qui doit fasciner Cocteau, du héros qui va défier la mort, puisque Orphée va aux enfers et qui le ramène donc Eurydice des enfers. Et puis il y a le destin tragique aussi, parce que vous connaissez la fin d'Orphée. Après avoir perdu Eurydice, il monte sur les pentes du Rhodope et il va être attaqué, lacéré, décapité par les Ménades, et les Ménades vont jeter ses membres et sa tête dans le fleuve. Or, sa tête va continuer, et elle va continuer à parler, et elle va aller jusqu'à Lesbos, qui est le cœur de la poésie, et elle va proférer des oracles. Ses membres, les muses, vont les rassembler et les mettre en bas du mont Olympe, et Zeus lui-même va prendre sa lyre, va l'envoyer dans le ciel, et ça sera la fameuse constellation de la lyre, donc de Jean Cocteau. Enfin, dernière chose, Orphée est aussi le créateur des mystères, l'orphisme. Cocteau a toujours été fasciné par les mystères, et donc cette connivence, cette collusion en quelque sorte entre le mythe d'Orphée et l'image que Cocteau veut donner de lui-même, ça divise, ça fascine, et moi il me semble qu'il y a un peu de tout ça dans ce rapprochement. Alors pour illustrer ça, j'ai pris trois figures majeures d'Orphée. La représentation qu'on trouve aussi bien dans les vases grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ que dans les peintures. Là, vous avez le tableau de César et Gennari, qui est un peintre baroque du 17e siècle italien. Vous avez la descente aux enfers. Alors, on pourrait s'amuser à comparer la façon dont Rubens, en 1636, le met en scène et la façon dont Corot le met en scène en 1861, mais c'est un thème majeur de la peinture. Enfin, on pourrait épiloguer aussi sur la mort d'Orphée. Donc, vous avez d'un côté Gustave Moreau, une jeune fille thrace porte la tête d'Orphée, et d'un autre côté Jean Delville, où vous voyez la tête d'Orphée qui dérive sur le fleuve. Alors, projet fou une fois de plus, je me suis dit que ça serait intéressant de voir au XXIe siècle qu'est-ce que pourrait être l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Et donc, j'ai créé, à la fin de l'année dernière, un roman qui s'appelle « On ne meurt que deux fois » et dans lequel j'ai transposé Orphée et Eurydice au XXIe siècle. Donc Orphée s'appelle Démétrios, c'est une sorte de gourou du Star System qui ne joue de la musique que dans un orchestre d'hommes, qui a des fans un peu partout. Eurydice, dans la mythologie, c'est une dryade, c'est une nymphe des forêts. Donc elle s'appelle Sylvia, de la racine Sylva, la forêt, et c'est une sans-papière qui va essayer de poursuivre ses études en France, de faire sa thèse en France. Le berger Aristée, qui poursuit de ses assiduités Eurydice et qui va faire que, en essayant de lui échapper, elle va être piquée par un serpent, est devenu sous ma plume le professeur émérite Léon-Jean Berger de l'Université de Nanterre, grand chef majeur de Nanterre et qui poursuit aussi de ses assiduités sa jeune étudiante. Et j'ai voulu transposer cela dans un contexte et dans un environnement où, comme dans la légende, Orphée est rejeté par la population et soupçonné de créer des phénomènes qui échappent à la rationalité. Donc j'ai mis Orphée dans le Massif central et j'ai imaginé qu'il était dans une région de volcans et que les volcans n'étaient pas éteints mais endormis. Et ça n'est pas simplement de la fiction. J'ai travaillé un petit peu avec les gens de Vulcania, le grand parc vulcanologique, je ne sais pas comment on dit, du Massif central. Et je leur ai dit, mais est-ce que les volcans sont éteints? Ils ne disent pas du tout. Les volcans ne sont pas éteints, ils sont endormis. Et ils ont une formule extraordinaire. La chaudière est pleine, mais les tuyaux sont bouchés. Et donc, j'ai imaginé que une série de petites secousses telluriques vont se produire dans le roman. Bien entendu, on va accuser Démétrios Orphée d'en être responsable. Et ce n'est pas complètement de la fiction, puisque, alors que l'ouvrage était sous presse, hein, le 9 mai 2022, dans la région qu'on appelle les Combrailles, qui sont à la lisière de l'Allier et du Massif central, il y a eu un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas ridicule du tout. Bon, ce n'est pas les grands tremblements de terre, etc. Mais j'avais, au fond, imaginé quelque chose qui était susceptible de se produire. Alors, je vais passer vite pour en arriver à la conclusion. Alors, j'aime pas conclure. Je veux dire que enfermer un dossier Cocteau dans une conclusion, ça n'a véritablement pas de sens. Donc, j'ai mis en perspective, d'un côté, cette carte, donc, trèfle, on est dans le roman Opium, et le texte « Écrire est un acte d'amour », et trois citations complètement différentes les unes des autres, mais qui sont peut-être trois ouvertures sur l'univers de Jean Cocteau. Voilà. Merci.